L'œuf et la poule, Olivier Horry. Bienvenue dans l'œuf et la poule ce mois-ci, de nouveau pour la conversation philosophique en compagnie d'Odile Autré. Le mois dernier, nous parlions de la vie et il me semble que nous sommes bien partis pour continuer peut-être sur ce thème.
Oui, on va peut-être soit préciser, soit élargir au choix les choses. La vie, on pourrait parler du prix de la vie, du coût de la vie.
Oui.
De ce qui peut la rendre précieuse.
Oui. Quand on avait, le mois dernier, parlé de la vie, on l'avait défini donc comme ce mouvement de reproduction hein, indéfini, très particulier, qui change quand même complètement du mouvement local. Et on s'était, je crois, attardé, et on avait été jusqu'à dire qu'il y avait quelque chose d'un petit peu mystérieux dans ce phénomène de la vie. C'est un mystère sur le mystère, hein. Le mystère qui est quelque chose plutôt que rien, et puis là, parmi ces choses, quelque chose de vivant. Et c'est vrai que toutes les cultures reconnaissent à la vie un prix particulier, indéniablement. Et au cours de nos conversations, je me rappelle vous avoir confié que dernièrement, j'avais hésité à tuer une mouche qui me distrayait dans ma lecture, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de raison de mettre fin à une vie, simplement parce qu'elle m'embêtait, quoi. Et puis vous m'aviez répondu, et s'il y avait eu 50 000 mouches? Et là, j'avais dit, bah, j'aurais probablement eu recours à une arme de destruction massive. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on passe comme ça d'une vie qui a un prix extraordinaire à nos yeux, à tout à coup, alors qu'il y a plus de mouches, tout à coup, elles ont plus de valeur du tout, et même au contraire, elles deviennent un parasitisme insupportable.
Eh bien, je pense que c'est, en fait, on voit le prix d'une vie quand c'est l'unique, c'est ce qu'on a devant soi, la représentation qu'on en a, et quand on arrive à 50 000 mouches, oui, ça peut devenir un problème majeur. Et donc, dans ce cas-là, le prix de la pauvre petite bête est plus comparable aux inconvénients, voire aux nuisances vraiment que crée la foule. Et en plus, la petite mouche devant soi, elle n'est pas anonyme, c'est la mouche.
Ouais.
Et 50 000 mouches, regardez ça comme 50 individualités, surtout des mouches, ça devient tout à fait impossible. C'est pas dans notre fonctionnement, je pense, tout simplement.
Ouais. En proliférant, la vie perd de sa préciosité, en fait, d'une certaine manière.
Ben, on voit une masse.
On voit une masse, oui.
Ça permet plein de choses épouvantables, justement, quand on considère des humains, mais y compris des animaux, comme simplement la composante d'une masse. Donc c'est anonyme, ça n'a pas de particularité. Et donc, il n'y a pas à se gêner.
Il n'y a pas à se gêner. Et je crois qu'on retrouve aussi une équivoque entre la vie de la mouche toute seule, qui est unique, individualisée, plus tout à fait anonyme, mais alors qui apparaît dans sa fragilité, et on sait combien la vie est fragile. Et puis d'un autre côté, quand c'est la foule des mouches, alors la vie apparaît dans son extraordinaire puissance.
Oui.
Et du coup, elle n'apparaît plus comme la chose précieuse qu'il faut protéger. Elle apparaît comme le danger dont il faut se protéger, justement. Une espèce de bascule comme ça.
Oui, c'est parce qu'on est quand même sensible à la vulnérabilité, je pense. Alors que la masse, bon, que ce soit des mouches, des fourmis ou tout autre, il n'y a plus cette notion de vulnérabilité. On peut se sentir en danger, alors à tort ou à raison, mais du coup, on ne se pose plus tellement la question.
Au-delà de cette question du... Alors, on plaisantait un petit peu avant de commencer à discuter sur le coût de la vie. Alors ça, le coût de la vie, on sait que c'est ce qui intéresse le pouvoir d'achat. C'est pas exactement ce dont il est question ici. On parlait plutôt donc du prix de la vie, et on voit ce prix... à la fois, c'est la vie, ce qui est infiniment précieux. Et d'un autre côté, c'est ce qui peut effectivement être dispensée à tout va d'une certaine manière. Ce qui effectivement amène à se poser de manière un peu plus large la question de la valeur de la vie.
Oui, c'est beaucoup plus difficile à définir. Le prix de la vie, on pourrait aboutir à des calculs savants en fonction de circonstances. Ça doit être fait peut-être sur le plan matériel, quand il y a des décès, quand il y a des accidents. Par contre, évaluer la valeur d'une vie, sur quels critères et de la vie de qui on parle aussi.
Alors c'est là que ça devient extrêmement compliqué, parce que sans doute que pour évaluer la vie, il faudrait peut-être commencer par en dégager le sens. C'est-à-dire que quelque chose qui n'a pas de sens, très vite n'a pas de valeur. Quelque chose qui a du sens a au moins la valeur que ce sens lui donne. Et c'est vrai que, d'un point de vue strictement philosophique, la question du sens de la vie, une question qui préoccupe l'intelligentsia européenne singulièrement depuis peut-être la Seconde Guerre mondiale, plus encore depuis la catastrophe qu'ont constitué peut-être, je ne sais pas, Hiroshima, la destruction des Juifs d'Europe, etc. La question donc de la valeur, du prix de la vie et de son sens. Et c'est la notion d'absurdité qui a émergé d'une certaine façon, c'est-à-dire que quand on regarde l'univers matériel, il nous apparaît là indifférent à tout. Et les plantes, les animaux qui évoluent dans cet univers nous paraissent être là sans avoir besoin de la moindre justification, de la moindre légitimation. Le sens de leur vie, il est donné par leur vie même, d'une certaine manière. Et puis, il y a l'homme qui, lui, s'élève. Je ne sais pas s'il s'élève ou s'il chute au plan de la réflexion, c'est-à-dire pour lui devient spectateur de sa propre vie dans l'univers, et effectivement, il peut se demander, au-delà de la sensation de vivre, donc l'existence nous est donnée par nos cinq sens au minimum, mais si au-delà de cette sensation de vivre qui nous est donnée par nos cinq sens, il y a ou pas un sens à vivre. Qu'est-ce que veut dire le fait d'être là et d'avoir à faire ce qu'il faut pour rester en vie ?
Ben, je pense qu'on occupe une bonne partie de sa vie à essayer de trouver une réponse, une réponse personnelle. Ça ne pourra jamais être une réponse collective. Il y a des idéologies qui ont tenté de répondre un petit peu à tout ça. Ça reste des idéologies et ça reste quelque chose auquel on adhère ou pas, qui peut-être peut donner une espèce de vie pratique, une espèce de ligne conductrice, mais ça n'aura rien de définitif.
Non, ça conserve quelque chose de problématique. C'est-à-dire que, si je prends ce recul de spectateur, dans lequel finalement je perds mon innocence, et au lieu de vivre innocemment, je pars, ou je deviens à la quête de sens. Alors effectivement, on se rend bien compte que ce sens peut difficilement intervenir en dehors d'une construction intellectuelle. C'est-à-dire, il faut évidemment que je construise tout un système de sens, toute une représentation de l'univers, dans laquelle moi, petit bonhomme là au milieu, j'ai un sens. Et effectivement, je crois qu'on a déjà eu l'occasion, je pense, d'en parler durant des émissions précédentes. Ce qui distingue l'idéologie de n'importe quelle représentation globale des choses, de l'univers, ce qui distingue une idéologie, c'est qu'elle propose toujours une définition de l'homme. Par exemple, vous allez avoir des idéologies socialistes, communistes, qui vont définir l'individu comme une part du collectif. Justement, vous faisiez allusion tout à l'heure au collectif. L'individu va prendre du sens au sein de ce collectif, et il va prendre du sens particulièrement par son travail. On va faire de l'individu un travailleur dans une collectivité au travail. Ça va donner à cet individu un sens provisoirement à son existence. Concrètement, le matin quand il se réveille, il sait pourquoi il se lève, et puis somme toute... Et les idéologies en général, toutes les idéologies, quelle que soit leur source et leurs ressources, elles nous proposent cette définition de l'homme grâce à laquelle, définition, mon existence peut effectivement prendre un sens. Francis Poulenc, improvisation numéro 15, c'est Pascal Roger, piano. La conversation philosophique reprend avec Odile Autré sur Au-delà de la vie, le prix de la vie, le sens de la vie. Et nous en étions arrivés à constater que ce sens de la vie se trouvait souvent au sein d'une construction intellectuelle qui était parfois ce que nous appelons une idéologie.
Oui, et ces idéologies ou cette idéologie, elle peut permettre peut-être de rationaliser la façon qu'on a de voir la vie, et donc qui peut permettre d'aboutir, si on veut, à des calculs de la valeur de la vie.
Complètement. C'est-à-dire que, effectivement, quand on regarde cette recherche du sens de la vie, on s'aperçoit qu'il coïncide, il peut coïncider à un moment donné avec la découverte de la raison de vivre. C'est-à-dire qu'effectivement, chercher le sens, ça coïncide souvent avec tenter de donner une rationalité à tout ça. Et effectivement, la raison, la rationalité, ça vient du latin ratio, je calcule. Il s'agit bel et bien, à un moment donné, pour l'homme, l'individu humain, de trouver une raison à son, à sa présence sur Terre et à son existence qui doit persister sur Terre. Parce que, effectivement, s'il est assez aisé de découvrir des causes à notre existence individuelle, bon, ben, en gros, ce sont nos parents hein, qui sont la cause de notre présence ici. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'on a la cause qu'on a la raison. Et effectivement, tenter de rationaliser l'existence humaine pour lui donner un sens, c'est un peu le projet des idéologies dont on a parlé. Et ici, avec l'idée de rationalisation en général, on rencontre le rationalisme qui, à la limite, un rationalisme étroit, enfin un petit rationalisme, peut être assimilé à une idéologie dont la définition de l'homme serait que l'homme est un être rationnel dont la vocation et la fonction dans l'univers est de trouver des raisons, y compris à sa propre existence. Donc le rationalisme est peut-être vu aussi comme une idéologie, et les idéologies, en général, comme des tentatives de rationaliser, de calculer la raison d'être de l'humain, qui, sans cette construction-là, a bien du mal à se persuader que la vie vaut d'être vécue.
Oui, alors, au plan individuel, ces idéologies, elles peuvent servir sur un plan général pour une population. Par contre, sur le plan individuel, c'est une question qu'on remet, en fait, sans cesse sur le métier. C'est pas parce que ce matin, on a trouvé pourquoi on vit, pour quel but, pour quel objectif, pour quelle notion. C'est jamais acquis, c'est jamais définitif. Donc c'est une recherche constante à la fois du pourquoi et de la valeur qu'on peut donner à sa propre vie.
Oui, les idéologies sont des représentations collectives, évidemment. Et même si les individus, à l'occasion, peuvent être profondément aliénés à ces idéologies, c'est-à-dire, ça veut dire que les idéologies peuvent investir l'individu très profondément, au point qu'à la limite, il ne se pose plus vraiment de questions individuellement, existentiellement, sur le sens qu'il a. Ceci dit, évidemment qu'au sens, je dirais encore une fois, presque cartésien du terme, quand je prends conscience que j'existe, je prends conscience de mon existence comme entité individuelle, solitaire, et il est difficile quand même pour une idéologie de fournir là de quoi véritablement me donner des raisons et du sens. Et c'est pour ça que quand je me réfléchis au sens de la vie, je me dis que trouver le sens de la vie, c'est tenter de donner à autre chose que nous seuls la valeur de l'évidence. C'est-à-dire, il est évident que je suis, il est évident que globalement, j'ai plutôt envie de durer, quoique la question de l'absence de désir peut se poser aussi, hein, bien entendu. Mais alors pourquoi ? Il est bien évident que sortir de cette solitude, où c'est en sortant de cette solitude qu'on a peut-être le plus de chances de trouver un sens et une raison de vivre. Je veux dire par là que ce qui me paraît m'appartenir profondément comme individu, ça va être ma langue, les signes que je peux faire autour de moi, et immédiatement je me rends compte que ces signes, cette langue, ce sens n'ont d'existence que dans mon rapport avec les autres. Donc, en fait, trouver le sens assez, presque immédiatement, trouver le sens de ma vie, c'est rencontrer l'autre, en fait. C'est rencontrer celui avec lequel mon existence peut faire sens.
Oui, c'est sans lien, l'individu seul, unique. Enfin, je ne sais pas quel sens il pourrait trouver. Mais en tout cas, ça peut se tricoter avec le lien d'individu ou de population à population.
D'ailleurs, c'est simplement qu'au plan du sens se manifeste, qui se manifeste déjà au plan biologique. C'est-à-dire le petit homme, il est bien le produit de la rencontre de deux humains. Et le petit homme, il est dans un état de dépendance complet à l'égard de son entourage dans les premiers jours de sa vie, dans les premières semaines, les premiers mois
Moi
de sa
même.
Vie, oui, de sa vie largement, bien sûr. Et cette dépendance biologique, elle a son pendant du côté du sens. C'est-à-dire, si je ne peux pas faire du lien autour de moi, symbolique, si je ne peux pas entrer en communication avec les autres autour de moi, il est pratiquement impossible que se dégage pour moi un sens à mon existence et une raison de vivre.
Oui, et on va du coup se retrouver avec la question de la valeur de cette vie, particulière, et puis de la vie en général.
C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement trouver des moyens, des raisons de lui donner de la valeur. Marilyn Crispell au piano pour Climb to a Whisper, l'album Dream Libretto. La conversation philosophique de l'œuf et la poule sur RCF continue avec Odile Autré. Nous en sommes donc arrivés à cette faculté que nous avons, ou pas, de trouver un sens, une raison de vivre dans notre rapport aux autres, dans une convivialité profonde avec les autres avec lesquels nous vivons.
Oui, un lien avec les autres, alors sous toutes sortes de formes, affectifs, morales, transmission de la mémoire, et puis il y a l'activité, il y a le lien, il y a ce qu'on fait ensemble.
Oui.
Et est-ce que ça, c'est pas un moyen d'évaluer justement d'évaluer la qualité et la valeur de sa vie?
Il me semble que oui, dans la mesure où à travers ce que nous appelons le travail, mais il faut, comme vous le suggériez hors micro, il faut donner au mot travail un sens extrêmement large, pas simplement le boulot socialement valorisé, etc. Non, le travail au sens large, c'est-à-dire le faire, l'activité, la création, toutes ces, l'activité, la pratique en général avec les autres, pourquoi elle est susceptible de donner une valeur à la vie? Parce qu'elle permet d'une certaine manière de l'objectiver, cette vie hors de nous. C'est-à-dire que dans mon travail, par mon activité avec les autres, je produis déjà mes moyens de subsistance. Ce qui a du sens, évidemment. À partir du moment où on a décidé de vivre, ça a du sens de se donner les moyens de vivre, naturellement. Et puis, au-delà de cette simple satisfaction des besoins, l'activité me permet d'exprimer ce que je suis. Et collectivement, l'activité nous permet d'exprimer ce que nous sommes hors de nous, hors du secret de la vie intérieure. Et cette objectivation-là, c'est une manière de donner de la valeur.
Oui, et puis ça permet de l'entretien de la vie, sa base, l'entretien. Et puis, avec la capacité de choix qu'on peut avoir, ça peut largement augmenter aussi la capacité de créer.
Quand cette activité individuelle et collective parvient en plus à être l'expression de notre liberté, alors là, effectivement, on lui donne à la vie, à travers notre activité, son sens profondément humain. C'est-à-dire que bon, ce qui nous différencie dans notre activité des fourmis qui s'activent elles aussi énormément et des abeilles qui butinent, ce qui nous différencie, c'est qu'effectivement, nous pouvons nous reconnaître dans notre activité. Et puis surtout, nous pouvons, là, dans une certaine mesure, hein, il s'agit, nous pouvons dans une assez large mesure la choisir, cette activité, et en la choisissant, en l'élisant d'une certaine manière, nous faisons montre de ce dont ne peuvent pas faire montre les animaux, par exemple, à savoir notre liberté. Nous pouvons faire autre chose qu'une alvéole supplémentaire dans la ruche.
Oui, et ça suppose la conscience de soi, la conscience d'appartenir. À l'humanité. Et aussi, ça concerne la valeur de la personne.
Oui. C'est-à-dire que là, tout doucement, vient se dessiner un nouvel avenir sans cesse ouvert dans lequel les individus et les collectivités doivent trouver leur sens. Et là, on voit qu'à un moment donné, la valeur de la vie, elle se trouve comme en avant ou au-delà de la vie elle-même. Alors ça pose effectivement la question de cette créativité, mais alors à un degré presque transcendant d'une certaine manière. Voilà. Un nouvel épisode de L'œuf et la poule s'achève là. Une fois de plus, donc, il était question de la vie. Il me reste à remercier Landy Unger, qui avait choisi pour nous Francis Poulenc et Marilyn Crispel. Il me reste à remercier Odile Autré, mon interlocutrice, dans cette discussion, dans cette conversation. Il me reste enfin à remercier Vincent Guigon, qui réalise tout ça. Ciao, ciao. Thank you.